Zone de Contact, une émission de Spoutnik Afrique.
Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Aujourd'hui, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de Contact qui vous accompagne. Je suis très heureux de retrouver à nouveau les auditeurs et les auditrices de Maliba FM qui nous écoutent sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui. Abu Dhabi profitera de son adhésion aux BRICS politiquement et économiquement. L'Iran, qui entend participer en tant que tierce partie dans le procès de Pretoria contre Israël, et une nouvelle tentative de déstabilisation déjouée au Burkina Faso. Le Premier ministre nigérien est en visite d'État à Moscou. Il a répondu à nos questions en exclusivité. La journée des forces armées maliennes, c'est le 20 janvier. Un géopolitologue malien reviendra sur l'importance de cette date pour son pays. Sergueï Lavrov a dressé le bilan de l'année 2023 lors d'une conférence de presse. Un analyste et chroniqueur malien a commenté les déclarations du chef de la diplomatie russe. Des mercenaires français ont été éliminés par l'armée russe en Ukraine. Deux journalistes et trois hommes politiques français ont commenté cet événement. L'Ouganda accueille le 19e sommet du mouvement des non-alignés. Un expert sénégalais reviendra sur les enjeux actuels qui font face à cette organisation. Les BRICS ont fait partie des sujets de discussion au Forum économique international de Davos. Abdullah Bintou Kalmari, ministre émirati de l'économie, a parlé des bénéfices que son pays attend de sa récente intégration aux BRICS. Il a indiqué que l'adhésion de son pays au groupe apportera pour Abu Dhabi beaucoup d'avantages au niveau géopolitique ainsi qu'à l'économie mondiale. Selon le ministre, les Émirats arabes unis peuvent jouer un rôle clé dans la coopération et l'interaction internationale, y compris avec les pays du Sud. Il a ajouté que le gouvernement émirati avait participé à la création de la nouvelle banque de développement des BRICS afin de développer l'infrastructure d'investissement dans la région. Pour rappel, le groupe des BRICS est composé de 10 membres depuis le 1er janvier 2024. Il s'agit du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iran, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. C'est la Russie qui assure la présidence tournante du groupe cette année. Le vice-président iranien pour les affaires juridiques, Mohammad Degan, a annoncé l'intention de son pays de participer en tant que tierce partie au procès pour génocide intenté par l'Afrique du Sud contre Israël à la Cour internationale de justice de l'ONU. Il a annoncé que Téhéran prépare actuellement les documents requis pour que l'Iran puisse devenir tierce partie dans cette procédure. Monsieur Degan a indiqué à l'agence de presse iranienne Tasnim que Téhéran a formé une commission et qu'une plainte sera bientôt déposée contre Israël devant la Cour internationale de justice des Nations unies. Pour rappel, le 29 décembre, l'Afrique du Sud a accusé Israël d'avoir violé la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Pretoria estime que l'attaque du 7 octobre ne peut en aucun cas justifier la situation actuelle dans la bande de Gaza et demande à la Cour de prendre des mesures provisoires contre les autorités israéliennes. Le ministère israélien des Affaires étrangères a depuis répliqué à Pretoria en estimant que son action en justice ne reposait sur aucune base factuelle et l'a accusé de collaborer avec des terroristes. Le gouvernement du Burkina Faso a affirmé avoir déjoué une énième tentative de déstabilisation. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo, porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, a annoncé dans un communiqué relayé par l'agence d'information du Burkina que les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation au Burkina Faso. Il a déclaré que ce réseau implique des militaires en fonction ou radiés, des civils et des activistes. Ceux-ci planifiaient de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté du pays. Le ministre a indiqué que des interpellations ont été réalisées, des entretiens ont été menés et des analyses techniques sont en cours. Il a ajouté que les informations recueillies prouvaient la volonté de subversion et de déstabilisation du pays par le réseau. Monsieur Ouédraogo a conclu en rassurant le peuple burkinabé de la vigilance des services de renseignement ainsi que de la promptitude des forces patriotiques de défense et de sécurité du pays qui ont permis d'interrompre la mise en œuvre d'une énième tentative de déstabilisation du Burkina Faso et ainsi éviter au pays de voir une nouvelle fois son espoir de liberté et d'indépendance assassiné sur l'autel d'intérêts égoïstes. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Une délégation nigérienne dirigée par le Premier ministre Ali Lamine Zeyn a effectué une visite à Moscou. De Russie, elle s'est rendue en Turquie et la prochaine étape de la tournée sera Téhéran. Selon le Premier ministre nigérien, l'un des objectifs de sa visite à Moscou était de renforcer la coopération avec la Russie dans les domaines de la santé et de la médecine nucléaire. En outre, Ali Lamine Zeyn a déclaré que dans le secteur de l'énergie, un accord a été conclu avec Moscou pour réviser les anciens arrangements et les étendre. Lors d'une conférence de presse, le chef du gouvernement nigérien a répondu aux questions de Spoutnik Afrique. Écoutons-le tout de suite.
Comment évaluez-vous la contribution des contingents occidentaux à la lutte contre le terrorisme en Afrique ?
C'est une question très complexe à la fois, mais simple. Quel est l'impact de ces interventions sur la lutte contre le terrorisme ? Le Niger est bien placé pour dire aujourd'hui qu'il a attendu beaucoup de sa coopération avec certains de ces pays. Malheureusement, l'attente n'a pas été à la hauteur. Je dirais même la déception est là. Heureusement que le Nigérien est resté résilient. Comme vous le savez, nous avons une armée qui sait se battre. Et évidemment, nous, dans le cadre de l'ouverture que nous avons décidé d'avoir vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de la multiplication de nos partenaires, nous aspirons et nous espérons que très rapidement, une coopération beaucoup plus fructueuse permettra, en tout cas pour le cas de notre pays, d'arriver à contenir ce terrorisme qui affecte et que nous n'avons pas cherché. Le Niger n'a jamais attaqué qui que ce soit. J'espère et souhaite que dans un très proche avenir, nous pourrions arriver à contenir un peu ce phénomène qui est un phénomène que tous les pays épris de paix devraient avoir derrière soi.
Le Niger a déclaré qu'il lancerait bientôt des activités de renforcement des capacités pour ses forces armées en collaboration avec la Russie. Comment la Russie peut-elle aider l'Alliance des États du Sahel? Une base russe peut-elle être envisagée à l'avenir?
Écoutez, le Niger, à l'instar de deux autres pays éprouvés par le terrorisme, a décidé de réchauffer une organisation qui existe depuis plusieurs années. Je parle ici du Burkina Faso et du Mali. Nous avons une organisation, d'abord ce sont des rapports millénaires, nous sommes liés par l'histoire, par la culture, par la géographie. Nous avons un partage, évidemment, des défis communs sur le plan économique. Ce sont trois pays qui sont des pays de l'interland, n'ayant pas accès à la mer. Donc nous avons tout pour que nous puissions ensemble partager nos préoccupations, avoir des projets communs, des stratégies communes et aussi la mise en commun de nos moyens pour nous défendre. Et l'AES qui est créé à partir de... L'AES, c'est l'Alliance des États du Sahel qui est créée sur la base de l'ALG. L'ALG, c'est l'autorité de l'Uptako-Gourmand qui existe depuis les années 70. Donc cette nouvelle forme d'organisation est venue avec un compartiment important qui est la sécurité et la défense. Donc dans ce cadre, évidemment, nous échangeons beaucoup et nous attendons évidemment d'un partenaire, la Russie, sur le renforcement de nos capacités, sur les conseils qu'il faut et surtout sur également la mobilisation du matériel qu'il faut pour protéger nos pays, pour protéger nos peuples, pas pour faire la guerre à qui que ce soit. Donc ici, la Russie l'a accepté. Évidemment, c'est des deux mains que nous signerons, évidemment, tout accord qui nous conduirait à cette protection.
C'était Ali Lamine Zeyn, Premier ministre nigérien pour Spoutnik Afrique. À l'occasion de sa visite à Moscou, il a répondu à nos questions. Mesdames, messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le 20 janvier, c'est la fête des forces armées maliennes. Créée le 1er octobre 1960, juste après l'indépendance, elle se compose d'une armée de terre, d'une armée de l'air, d'une garde nationale, ainsi que d'une gendarmerie. Les militaires maliens ont participé à des missions de maintien de la paix au cours de leur histoire en République démocratique du Congo, au Libéria, au Sierra Leone et en Centrafrique. Au micro de Spoutnik Afrique, Adama Diabaté, géopolitologue malien, est revenu sur l'importance de cette date pour son pays.
Le 20 janvier, le Mali fête le 63e anniversaire de l'armée. Quelle est l'importance de cette date pour les Maliens?
Avant, c'était, disons, une date qui n'était pas appréciée à sa juste valeur. Pourquoi? Parce que la composition militaire de notre vie politique était au rabais, moins apprécié, on fournissait moins d'efforts dans ces domaines militaires. Mais après les événements de 2012, les 10 ans de maltraitement on nous a fait subir par l'Occident, et après notre exploit non rêvé, incroyable pour les Maliens de tous bords, ces derniers temps ont amené les Maliens à comprendre réellement la valeur de tout ce qui est lié avec le militaire. C'est-à-dire le 20 janvier, le 14 janvier tout récemment avec les sanctions, il y avait plus de 4 millions de Maliens qui sont sortis pour dire niet à l'ingérence dans oui à la souveraineté. Et d'ailleurs, la semaine passée, on l'a fêté avec pompe. Aujourd'hui, on doit donner une longue interview à la Défense par rapport à cet anniversaire du 20. Et les préparatifs sont en cours. Et les événements de Kidal et la reprise de notre pays à l'aide de notre ami russe, c'était un événement de rêve, un événement que les Maliens n'avaient jamais cru possible, mais qui est devenu possible à l'aide, avec la coopération de notre ami intègre, comme l'a dit notre ministre de la Défense. En fait, c'est aujourd'hui, cette date, quand on me demandait quelle portée vient, elle a toutes les portées. Et la souveraineté dans l'existence souveraine même de notre pays. Pourquoi? Parce que sans armée forte, je crois qu'aucun pays n'a droit à une quelconque indépendante, plus ou moins. Surtout nous, tout le temps, siècle, il a fallu qu'on comprenne. Dieu merci, ça n'a pas été facile, mais la population a compris. Pas les dirigeants qui étaient là depuis 60 ans, non, c'était des vendus. Mais la petite couche là qui est venue, des jeunes militaires, Dieu merci, qui ont eux-mêmes tellement subi au front de ces Occidentaux que quand ils ont eu l'occasion de s'affranchir, ils n'ont pas pris de longtemps pour se décider. Et aujourd'hui, le 20 janvier, il revêt toute sa valeur historique, toute sa valeur patriotique, toute sa connotation est réelle du rôle que la capacité de sécurisation de son pays signifie dans le sens de la souveraineté d'un pays. C'est-à-dire, sans ta capacité de surveiller les frontières, d'avoir un État fort capable de maintenir l'ordre dans le pays, avoir sa monnaie, c'est les critères d'indépendance, de souveraineté qui nous manquaient à tous les plans, et qu'à l'aide de l'armée aujourd'hui, les Maliens commencent à croire dans la possibilité d'acquisition de ces critères. Et on a tout à croire et que ces choses-là ne sont plus des rêves lointains, mais des choses d'un mois à l'autre, ou bien d'une année à une autre.
Merci beaucoup. L'année dernière, en 2023, les forces armées maliennes, les FAMA, ont enregistré des succès majeurs dans leur lutte contre le terrorisme, notamment à Kidal, qui a été reprise par les forces armées maliennes. Qui plus est, l'Alliance des États du Sahel a été créée. Comment, à votre avis, est-ce que tous ces événements de l'année dernière peuvent améliorer davantage la situation sécuritaire au Mali et dans la région?
Cette situation sécuritaire, comme je vous l'ai dit, ça a été un rêve, mais un rêve qui a dépassé l'entendement et l'espoir des populations de ces trois pays, des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés et je suis sûr de beaucoup d'autres peuples africains qui nous regardent attentivement et qui sont envieux. Mais jusqu'à présent, ils ont peur de l'ancien maître, mais qui ont envie de s'associer à nous Et c'est ce que j'ai fait un peu allusion à la première partie de votre réponse, que l'année dernière a été une année charnière, une année de tous les succès, une année de la réalisation de beaucoup de rêves qui nous pensons irréalisables, c'est-à-dire la paix de Kigali, pratiquement, comme le ministre de la Défense a dit, le dispatchement des forces armées maliennes sur tout le territoire, sur toute l'étendue du pays. Oui, encore, il y a des réactions, résistances résiduelles de la part des mercenaires payés par l'Occident. Mais c'est normal dans les telles luttes. N'oubliez pas que depuis 12 ans déjà, ces saletés des parasites appelés djihadistes qui ne sont que des commis, des gens payés par l'Occident pour nous déstabiliser afin de mieux nous voler, nous exploiter nos ressources. Aujourd'hui, on a coupé les ailes. Et il reste des coupes cassées maintenant les pieds pour finalement en faire des gibiers. Et Inch'Allah, on est sur la voie avec la bonne coopération de notre grand ami, la Russie. Une année de fierté. Et si vous étiez là aujourd'hui avec quelques 48 heures avant le 20 janvier, vous allez comprendre jusqu'à quel point aujourd'hui la nation malienne a repris confiance en soi-même, en sa capacité de souveraineté, en sa capacité même de succès, de progrès économique dans tous les domaines. Et finalement, le peuple a réalisé que, comme le président a dit il y a 3 jours dans son intervention, je l'ai toujours dit de tout le temps, on n'a jamais été un pays pauvre, on a été un pays appauvri, intentionnellement, parce que cela arrangeait ceux qui nous volaient de tout le temps, depuis plus de 100 ans. Et aujourd'hui, le peuple s'est réveillé, ils ont vu la réalité, ils sont plus prêts à se soumettre. Et malheur à ceux qui vivaient dans notre dos comme des parasites. Donc, l'année dernière, pour reprendre la situation, elle a été l'année de tout le bonheur que le Malien pouvait rêver. Il s'agit encore d'améliorer, de perfectionner ses acquis et utiliser ses acquis pour un nouveau tremplin, pour des succès nouveaux. Et je suis sûr que c'est l'attitude, c'est la position, c'est l'approche de chaque Malien aujourd'hui, épris de liberté, de dignité, et de tout Africain, épris de liberté, de dignité et d'indépendance. Et je crois que c'est un chemin qui va continuer et 2024 ne doit pas rester la moindre par rapport à l'année 2023 en ce qui concerne les succès sécuritaires auxquels maintenant doivent venir se greffer les succès économiques et financiers et la coopération globalement avec notre grand ami partenaire la Russie.
Merci beaucoup. Le colonel Assimi Goïta vient de déclarer qu'en 2021, il avait rejeté la proposition de déploiement de l'OTAN sur le territoire malien. Selon lui, l'Alliance Atlantique voulait faire du Mali un point d'entrée de toutes les dérives ou emprunter le chemin de la division du pays. Comment analysez-vous cette déclaration de votre leader?
Savez-vous que l'état général de l'OTAN est à Quartier. Ça devait être chez nous à Thessaloniki. C'est quand notre président, avant même Assimi, c'est ATT a refusé parce qu'il était ami avec Kadhafi. On l'a amené à Stuttgart, en Allemagne. C'est This African Force. Son état-major devait être à Thessalie, chez nous au Mali, ici. Pourquoi? Parce que Thessalie, c'est ce qu'on appelle en aviation les points zéro. C'est quand l'avion s'élève, ça, et regarde cette direction avant de s'orienter. C'est un point, c'est le point stratégique militaire le plus convoité sur le continent africain. Ce n'est pas un accident que le choix a été fait sur Thessalie. Et ça a été comme ça depuis des centenaires. Depuis des centenaires. Et derrière, c'est là-bas où ils voulaient mettre les quartiers généraux de la représentation de l'OTAN en Afrique. Et de là-bas maintenant, à raser, parce que c'est le Sahel qui est la zone la plus problématique pour l'Occident. Donc, quand ils allaient s'implanter au nord du Mali, c'était toute l'Afrique était dans leurs mains. Comme on dit à risque, la donne. Donc, notre président a refusé ça. C'est pourquoi, 4 mois de fin de mandat, on l'a fait un coup d'État ATT. Et le président Assimi étant lui-même militaire ayant subi au front, quand on est venu, on l'a proposé, il a compris. Ça voulait dire quoi pour son pays? Il a refusé. Parce qu'avec une force otanienne là-bas, le Mali n'était pas. Le Mali était un peu plus sauvé, le Mali. Donc, c'était le partage qu'on devait s'attendre. D'où ces refus catégoriques et bien sages.
C'était Adama Diabaté, géopolitologue malien pour Spoutnik Afrique. Il est revenu sur la fête des forces armées maliennes et sur l'importance de cette date pour son pays. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis Bamako. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a convié les journalistes lors d'une grande conférence de presse annuelle. Plusieurs sujets internationaux ont été abordés par le chef de la diplomatie russe et vous avez peut-être suivi les réponses du ministre lors de notre précédente émission. Au micro de Spoutnik Afrique, Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média, a commenté les déclarations de Sergueï Lavrov. Lors de sa conférence de presse annuelle, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a nommé l'Afrique un des centres émergents du monde multipolaire et déclaré que la Russie porte ses relations avec les pays africains à un niveau véritablement stratégique. Quels sont les domaines de ce partenariat qui vous semblent essentiels ?
Oui, je confirme ce qui vient d'être dit par le ministre des Affaires étrangères russe, bien sûr, M. Sergueï Lavrov, de nommer l'Afrique un des centres émergents du monde multipolaire. Nous sommes contre le monde unipolaire. C'est pour cela que le Mali, le Niger et le Burkina Faso luttent pour un véritable monde multipolaire. Voilà, où tout le monde est considéré, tout le monde a sa part, tout le monde a son mot à dire, de ne pas laisser le monde à quelques pays seulement qui décident pour les autres. Donc, moi, je confirme ça. Et l'Afrique également est le centre émergent, il faut le dire. Le domaine de partenariat qui nous semble essentiel entre les pays africains et la Russie, les domaines sont. Il y a beaucoup de domaines auxquels nous pourrons. Il y a beaucoup de domaines que nous pourrons entreprendre ensemble. Le domaine de le secteur également de l'agriculture, le secteur de l'énergie, le secteur également. De la médecine, et il y a le secteur du transport, il y a beaucoup de secteurs que nous pouvons mener, à travers lesquels nous pouvons mener un partenariat fiable avec la Russie. Je vous donne l'exemple du Mali. Dans le secteur de la défense, la Russie a beaucoup contribué à ce que le Mali soit aujourd'hui en mesure de se défendre lui-même, sans qu'on ait eu appel à ces pays occidentaux qui étaient auparavant là sous pseudo de défendre le Mali contre le terrorisme, or que c'était eux-mêmes la source même du terrorisme.
Le chef de la diplomatie russe a parlé des BRICS, groupe dans lequel la Russie assure la présidence cette année. Selon le ministre, 30 pays sont intéressés à rejoindre l'organisation qui vient tout juste de s'élargir. Comment voyez-vous l'avenir des BRICS ? Et en particulier en ce qui concerne ses relations avec les pays africains.
Aujourd'hui, si vous voyez que beaucoup de pays veulent adhérer aux BRICS, parce que les BRICS ont montré la preuve que les BRICS sont une organisation économique, monétaire et fiable. Donc, il est important pour chacun d'adhérer à de telles organisations pour pouvoir avoir une garantie fiable et sincère. Donc aujourd'hui, les BRICS ont montré leur preuve qu'ils peuvent contourner toutes les sanctions égoïstes à l'encontre d'un pays membre des BRICS. Donc pour cela, il est important que nous partons dans ce sens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pays qui aimeraient faire partie de cette organisation. Et il y a particulièrement en Afrique ici, quand vous voyez, le Mali même, il y a des gens qui veulent à tout prix que le Mali se rallie aux BRICS, qu'on fasse partie de cette organisation, parce que c'est une organisation qui a montré ses preuves qu'il est important de leur faire confiance, il est important de se rallier à cette organisation pour pouvoir bien mener ses actions économiques.
Sergueï Lavrov a rappelé la politique cynique de l'Occident à l'égard du conflit en Ukraine. Il a notamment mentionné les accords de Minsk qui ne servaient qu'à gagner du temps pour permettre à Kiev d'augmenter son potentiel militaire. Le ministre russe a qualifié l'Occident de partenaire non fiable. Pourquoi les États-Unis et leurs alliés se sentent-ils autorisés à violer tous les accords et principes du droit international?
Vous savez, les États-Unis et leurs alliés ont toujours violé les accords internationaux. Donc, ils se fichent des accords. Ils font ce qui leur semble bon pour eux. Et eux et les alliés ne font que protéger leurs intérêts égoïstes. Nous avons vu que les accords de Minsk n'ont jamais été respectés par ces pays mafieux. Ce sont des criminels, il faut le dire. Les États-Unis ont toujours voulu garder la main sur tout. Ils ont toujours voulu contrôler tout. Et voilà. Donc le monde a aujourd'hui compris, avec grâce à beaucoup de pays, grâce à la Russie, grâce à la Chine, grâce à l'Inde et d'autres puissances mondiales, le monde a compris que il est aujourd'hui important que nous allions dans le sens du monde multipolaire et du monde et non du monde unipolaire.
C'était Abdoul Diallo, analyste et chroniqueur malien, chef de la radio Couleur Média pour Spoutnik Afrique. Il a commenté les déclarations du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l'occasion de sa conférence de presse. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui nous ont rejoints depuis Bamako. L'armée russe a éliminé des mercenaires français qui se trouvaient sur un point de rassemblement à Kharkov, en Ukraine. Le Quai d'Orsay a nié la présence de ressortissants de l'Hexagone au sein de l'armée ukrainienne. Dans ce contexte, le ministère russe des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur de France à Moscou, Pierre Lévy, afin de s'expliquer sur la présence de ces Français dans les rangs de l'armée ukrainienne. Selon la chaîne de télévision française TF1, environ 60 à 70 hexagonaux seraient engagés au sein des troupes ukrainiennes, ainsi que 200 à 300 personnes ayant la double nationalité. Au micro de Spoutnik Afrique, diverses personnalités françaises ont réagi à cette nouvelle. Je vous présente Christelle Néant, journaliste française, fondatrice du site Donbass Insider, Laurent Braillard, journaliste français, ainsi que les hommes politiques français Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, Nicolas Dupont-Aignan, chef du parti Debout la France, et Thierry Mariani, eurodéputé français. Monsieur Braillard, un grand nombre de mercenaires français combattent en Ukraine pour Kiev, malgré le fait que, il faut le rappeler, le mercenariat soit officiellement interdit en France. Et autrement dit, les Français n'ont pas peur de l'interdiction de se rendre en Ukraine. Cela signifie-t-il, selon vous, qu'ils se sentent soutenus et probablement stimulés par Paris ? À votre avis ?
Le mercenariat est interdit en France depuis longtemps. Évidemment, ces mercenaires ont une impunité. Ils savent très bien que la France supporte en sous-main, ce n'est pas un secret, mais en sous-main, ils ont envoyé des armes, les canons Kaiser, etc., tout ça est connu. Donc, ils ont une certaine impunité, bien entendu. On sait par ailleurs que tous ceux qui sont rentrés ont été très peu inquiétés, juste à petit interrogatoire par les services français, et c'est tout. Encouragés par Paris, je pense pas, parce qu'évidemment, ils inquiètent aussi le gouvernement français. Il faut savoir, on fait des listes ici au Donbass Insider avec un groupe de Russes et aussi des volontaires étrangers. J'en ai 2000. Alors ce sont pas que des Français, hein, 2000 mercenaires étrangers, et j'en ai 145 qui sont des Français. On a des petites biographies plus ou moins complètes. Donc on sait que ils sont très bavards. Donc ça prouve aussi que bon, ils sont interviewés dans les médias, ils ont une certaine liberté de parole, il y a des youtubeurs pro-ukrainiens qui les font parler.
Et vous, Madame Néant, qu'en pensez-vous ?
Oui, ils savent clairement qu'ils ont une impunité totale, et ce, depuis bien avant l'opération militaire spéciale, puisqu'il y a déjà eu des Français qui combattaient pour l'Ukraine dès 2014, principalement dans les bataillons néo-nazis type Azov ou secteur droit. Ces gens-là n'ont jamais été inquiétés par la justice ou les services secrets français. Ils ont toujours pu rentrer en France, faire des allers-retours sans aucun problème. Donc, à partir de là, je pense qu'effectivement, ils peuvent ressentir une forme d'impunité qui fait que, ils pensent que ils peuvent continuer comme ça, même si officiellement, c'est interdit.
Monsieur Philippot, peut-on dire qu'en soutenant Kiev politiquement et en livrant des armes l'État à Kiev, Paris indirectement approuve la participation de ses citoyens à ce conflit.
Oui, le gouvernement français est clairement complice de la participation de Français au combat et donc de leur mort, puisque le gouvernement français a un discours univoque. C'est le très gentil Zelensky, le très méchant Poutine, point barre. Donc ça encourage. Et ensuite, parce que le gouvernement français livre de l'argent et des armes au régime de Zelensky depuis maintenant 2 ans. Semble donner le signal, montrer la voie, montrer l'exemple. Donc oui, le gouvernement français porte une responsabilité directe dans cet engagement et dans ces morts.
Et vous, monsieur Dupont-Aignan, quelle est votre opinion à ce sujet ?
Je suis effaré, scandalisé de la position de la France dans ce conflit, et je veux dire que je souhaite un accord de paix, et je pense qu'il y a un accord de paix possible. J'ai toujours dit en France ma position pour la paix. Je regrette la position et la politique d'Emmanuel Macron. Voilà. Et je veux que les Russes comme les Ukrainiens sachent qu'il y a beaucoup de leaders français et beaucoup de Français qui désapprouvent ce qui se passe aujourd'hui.
Madame Néant, des dizaines de mercenaires français ont été tués hier par une frappe russe en Ukraine. La Russie a indiqué à plusieurs reprises que les mercenaires combattant aux côtés de l'Ukraine constituent pour elle l'une des cibles prioritaires. Pourquoi ignore-t-il ces avertissements ?
Ils ont déjà très très peu d'attention pour la vie de leurs propres soldats en Ukraine. On voit qu'ils envoient leurs soldats dans des assauts qui n'ont ni queue ni tête. Ils savent qu'ils envoient leurs soldats à une mort certaine et ils continuent de les envoyer comme ça, ce qu'on appelle des assauts de viande, hein. C'est ni plus ni moins. Donc très sincèrement, je pense que la vie des mercenaires étrangers compte pas beaucoup plus pour les autorités ukrainiennes que la vie des soldats ukrainiens.
Et selon vous, Monsieur Braillard, pourquoi ces mercenaires français ignorent les avertissements de Moscou ?
Eh bien, la principale raison, évidemment, c'est je pense qu'il faut dire la nature de ces mercenaires. Sur les 145 que j'ai dans mes listes, 37 d'entre eux sont des néo-nazis assumés, ou du moins qui se sont montrés avec des tatouages, des croix nazies, etc. Voilà. Donc, ce sont des combattants idéologiques pour cela. Donc, ils viennent vraiment dans l'idée de combattre la Russie, de reprendre le vieux combat de la Seconde Guerre mondiale, etc. Ils imaginent la Russie comme étant un pays communiste, la race inférieure des Russes, voilà. Donc ça, c'est une première catégorie. La deuxième, c'est ce que j'appelle les idiots utiles. Donc eux, ils viennent pour combattre pour la liberté. Donc évidemment, la propagande occidentale ukrainienne a imaginé que voilà, l'Ukraine était martyrisée par la Russie, qu'il fallait la sauver. Donc ce sont aussi des combattants idéologiques. Ensuite, il y a une autre catégorie qui sont les combattants qui viennent pour l'argent. Donc ceux-là sont moins nombreux parmi les Français, mais il faut pas les ignorer, et certains d'ailleurs l'ont déclaré. Parmi les combattants étrangers qui viennent le plus pour l'argent, par exemple, il y a énormément de Colombiens et de Brésiliens. Ensuite, il y a une quatrième catégorie. Alors, je ne sais pas comment les appeler. Ce sont plutôt des gens qui sont un peu dépaumés, qui n'ont pas eu une vie très intéressante et qui sont venus chercher l'aventure, la bagarre. Pour eux, la cause n'est pas très importante. Ceux-là, évidemment, sont massivement partis quand ils ont vu la dureté des combats. Mais je pense que, on ne les arrêtera pas. En plus, par le fait que les Français les laissent partir, ils ne sont pas condamnés. Donc, ils n'ont aucune raison, finalement, de rebrousser chemin. Bien sûr, pas mal, déjà beaucoup sont morts. On ne sait pas exactement combien. Officiellement, la France affirmait qu'il y en avait qu'une dizaine de tués. Mais je me souviens qu'il y a déjà eu des frappes russes de bases de mercenaires. On se souvient à Kramatorsk, dans une pizzeria où ils étaient rassemblés. On se souvient à Odessa. On se souvient aussi à Yavorov. C'était dans la nuit du 12 au 13 mars 2022, où déjà pas mal de mercenaires avaient été tués. Je crois que le nombre était déjà beaucoup plus supérieur. Enfin, était plus grand, c'était 180 hommes quand même. Donc voilà, je pense que ces hommes d'ailleurs n'ont pas conscience, aucun d'entre eux, enfin à part la catégorie néo-nazis, du combat qu'ils mènent et pour qui ils combattent. Je pense par ailleurs que quand même ces frappes, celle-là particulièrement, va en faire réfléchir plus d'un quand même.
Monsieur Braillard, peut-on constater donc que l'idéologie néo-nazie est toujours présente en France ?
Mais elle l'a toujours été. Et alors je ne sais pas si on peut parler que de néo-nazisme, c'est quand même un grand mélange, hein. On a les ultra-nationalistes, néo-fascistes, etc. Enfin, c'est vraiment, en russe, on dirait le mot « cache », c'est-à-dire la bouillie. Et effectivement, cette idéologie n'est jamais morte. C'est dramatique parce qu'évidemment, on a l'exemple évidemment de la Seconde Guerre mondiale, de cette guerre terrible, du sang versé, de la difficulté à vaincre l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste. Mais ces groupuscules sont jamais morts, ont toujours perduré dans le temps. Et on le voit en Ukraine par le bandérisme, parce que c'est encore une autre forme, évidemment, de fascisme. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et puis, c'est très compliqué parce que dans l'engroupe, il y a les païens, c'est-à-dire anti-chrétiens, etc. Il y a aussi, certains sont monarchistes, d'autres vont être antisémites, etc. D'autres s'imaginent combattre le communisme. Enfin, voilà, même s'il n'y a plus de communisme. Enfin, il y a des communistes encore en Russie, mais ce n'est plus l'Union soviétique depuis plus de 30 ans, donc c'est assez ridicule. Mais oui, bien sûr, cette idéologie est toujours présente en Ukraine plus que jamais. Et ça a été la raison de mon départ dans le Donbass en 2015. Et j'ai vu par moi-même, en faisant des interviews de survivants, de torturés du SBU, du Pravi Sector, de crimes de guerre que j'ai relevés des bataillons de représailles, qu'effectivement, ça existe toujours. Et on le voit par de nombreuses photos, leurs tatouages. Ils sont très souvent tatoués. On voit la tête du Führer, les croix gammées, les Wolfsangel de la SS, les têtes de mort de la division Totenkopf, la Das Reich, etc. Donc effectivement, cette idéologie est toujours présente. Et c'est inquiétant pour l'Europe depuis, à mon avis, assez longtemps déjà. Même si je précise qu'en France, comme dans tous les pays du monde, ils sont assez minoritaires, mais comme ils sont d'une violence extrême, eh bien, ils sont dangereux, hein, comme on le sait.
Monsieur Philippot, quelles sont leurs motivations pour aller dans une zone de combat ?
Des Français se sentent autorisés à aller combattre sur le front pour l'Ukraine de Zelensky parce que le gouvernement français laisse faire, parce que c'est valorisé dans les médias, parce que personne ne leur dit clairement que c'est très dangereux et ne leur explique les motivations profondes de ce conflit. Donc on se retrouve avec des Français qui partent là-bas, croyant faire bien, et on voit que beaucoup meurent, évidemment.
Madame Néant, cette frappe intervient, il faut le rappeler, 2 jours après la visite du nouveau chef de la diplomatie française qui, à peine nommé, s'est rendu à Kiev. Pourquoi la France continue-t-elle d'accorder des milliards à l'Ukraine tout en fermant les yeux sur ses propres problèmes internes ?
Ils ne sont pas les seuls. L'Allemagne aussi, on le voit d'ailleurs. On le voit dire en Allemagne avec maintenant les manifestations des agriculteurs et des ouvriers allemands qui rappellent que la priorité devrait quand même être donnée tout simplement aux Allemands. Ce qui est logique. On voit effectivement en France, les autorités disent en long, en large et en travers, il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, il n'y a pas d'argent pour ci, il n'y a pas d'argent pour ça, mais il y a des milliards pour l'Ukraine. Et donc au bout d'un moment, ça risque aussi de dégénérer en manifestation et en grosse crise sociale, comme en Allemagne. Parce que vous ne pouvez pas jeter des milliards et des milliards dans un tonneau des Danaïdes comme l'Ukraine, parce que l'Ukraine est un tonneau des Danaïdes, hein, je veux dire, l'argent il disparaît comme dans un trou noir, ça sert juste à enrichir tous les corrompus du gouvernement, du Parlement, etc. Très peu de cette aide financière aide réellement les Ukrainiens, on va dire, ordinaires. Donc, résultat des courses, au bout d'un moment, on ne peut pas jeter plein d'argent comme ça et le sortir de nulle part. Donc ça veut dire que cet argent, il est retiré de projets sociaux ou économiques internes au pays de l'Union européenne. Donc au bout d'un moment, ça va poser des gros problèmes. On le voit déjà en Allemagne et je pense que ça va s'étendre à d'autres pays comme la France.
Et vous, Monsieur Philippot, qu'en pensez-vous ?
Et vous pointez du doigt un gros problème. Il n'y a pas de débat public en France sur l'aide à l'Ukraine. Il n'y a aucun parlementaire quasiment pour réclamer un débat au Parlement. Il y a une absence d'écoute de ce que disent les Français. Les Français ne veulent plus qu'on envoie des armes et de l'argent. Les Français veulent qu'on s'occupe de l'hôpital en France. Ils veulent qu'on s'occupe de leur retraite. Ils veulent qu'on s'occupe de leurs services publics défaillants. Ils veulent qu'on s'occupe d'aider ici ceux qui en ont besoin, les gens qui sont à la rue. Bon, mais on est dans l'idéologie. Voilà, l'idéologie. On suit l'Union européenne, on suit l'OTAN, on avance, on donne de l'argent. Ça n'est pas transparent. transparent, il n'y a même pas de vote au Parlement. C'est le signe que la France n'est pas une démocratie, contrairement à ce qu'elle dit, la France n'est pas une démocratie.
Monsieur Dupont-Aignan, à votre avis, pourquoi Paris continue-t-elle à mener une telle politique ?
Mais parce que, d'abord, il n'y a pas de concertation avec les Français, parce qu'ils savent que le peuple français aime le peuple russe et veut une paix. Voilà pourquoi il ne concerte avec personne. Deuxièmement, il obéit au maître du monde, au forum de Davos, aux oligarques qui nous dirigent. Et troisièmement, il va falloir arrêter tout cela le plus vite possible.
Monsieur Mariani, Paris vient d'annoncer la production de 70 canons Caesar supplémentaires pour l'Ukraine, alors que dans le même temps, Macron a déclaré qu'il ne devrait pas laisser Moscou gagner. Pourquoi la France refuse toujours de confirmer qu'elle participe pleinement à la guerre ?
Emmanuel Macron sait très bien que les Français n'accepteraient pas que notre pays soit co-belligérant en Ukraine. D'ailleurs, la France n'est pas en guerre avec la Russie et aucun soldat français n'ira mourir pour Kiev. Les Français ne seraient pas d'accord. Mais c'est vrai que la France tient un double discours. À la fois, on s'aligne sur les États-Unis et on soumet notre politique étrangère à l'Union européenne. Et on se soumet ainsi complètement au désir de M. Zelensky, j'ai presque envie de dire aux ordres de M. Zelensky, bien qu'on continue de prétendre auprès du peuple français que la politique française suit une voie indépendante. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que je note une petite évolution du langage diplomatique. Désormais, plus personne ne dit qu'il s'agit de faire gagner l'Ukraine, mais les gens disent qu'il ne faut pas laisser la Russie l'emporter. Donc, ça change pas grand-chose, sauf que ça veut bien dire que le climat aujourd'hui chez certains n'est plus à l'optimiste et que petit à petit, les dirigeants occidentaux reviennent sur leurs déclarations et savent bien que Kiev est en train de perdre. Et puis, oui, la France n'est pas belligérante, mais si vous me permettez, je trouve que cette situation est d'une extraordinaire lâcheté. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Dans le même temps où certains nous expliquent que cette guerre, c'est la guerre pour la démocratie, la guerre pour défendre la civilisation, la guerre pour défendre le monde libre, il n'y a qu'un seul pays qui paye le prix du sang. Et il faut être cohérent. Si vraiment cette guerre, c'était une guerre pour défendre la civilisation occidentale, le monde libre, la démocratie, il faudrait que toutes les armées d'Europe s'engagent. Mais on ne s'engage pas. Parce qu'en réalité, ces déclarations sont totalement hypocrites et je crains qu'à l'avenir, les Ukrainiens comprennent qu'ils n'ont été en réalité que les jouets des ambitions atlantiques et de l'OTAN.
Monsieur Dupont-Aignan, la France produit autant d'obus au standard 155 mm de l'OTAN par an que l'Ukraine en dépense en quelques jours, selon le président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat français. Selon lui, les forces armées ukrainiennes tirent chaque jour 5 à 8 000 obus de ce calibre, alors que la France n'en produit que 20 000. Est-ce que dans cette situation, ces livraisons d'armement français peuvent réellement changer la donne dans le conflit ?
Je ne crois pas. Je crois surtout que le président Macron veut plaire à Madame von der Leyen et au président Biden. Je pense que le président Biden n'en a plus pour longtemps et qu'heureusement le président Trump va revenir. Du moins, je l'espère, et j'espère que ainsi nous ferons la paix. Il y a suffisamment de problèmes dans le monde pour qu'on fasse la paix. Voilà. Et je suis convaincu que l'on peut trouver un accord de paix en Ukraine. Voilà. Je reste convaincu. Et je pense que la Russie attend simplement que l'Ukraine ne soit pas membre de l'OTAN. Jacques Chirac, en son temps, voulait la démilitarisation de l'Ukraine. Les Américains s'y étaient opposés. Si on avait fait cette démilitarisation de l'Ukraine, je suis sûr que, bien sûr, la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine. Et donc, je pense qu'il faut arriver à un accord politique au sommet. Et cet accord, un jour, la France y participera, je l'espère. En attendant, il faut subir les va-t-en-guerre.
Monsieur Mariani, pourquoi la France continue-t-elle malgré tout à envoyer des obus ? Qu'en pensez-vous ?
On continue à envoyer des obus parce que Emmanuel Macron n'a plus le choix puisqu'il s'est engagé lui-même à faire ses livraisons. Et d'ailleurs, le ministre de la Défense français affirmait d'ailleurs il y a quelque temps qu'il était fier que la France soit l'un des rares pays à avoir tenu ses engagements. Alors, évidemment, cela pose la question de la priorité qui devrait aller à l'armée française plutôt qu'au front ukrainien, parce qu'à force de fournir des munitions, il en restera bientôt plus pour notre propre armée. La question est maintenant de savoir comment la France peut changer de politique et devenir enfin un acteur de paix. Et c'est certainement pas en continuant à nier la réalité du terrain militaire que nous pourrons continuer, ou plutôt devenir un acteur de paix. Dans tous les cas, si les États-Unis arrêtent définitivement de fournir l'aide militaire à Kiev, puisque chacun sait que les échéances politiques américaines vont être très importantes, eh bien, si les États-Unis arrêtent de fournir l'aide militaire à Kiev, le soutien européen, même renforcé, ne sera pas suffisant. D'abord en quantité, car on sait que Washington a fourni jusqu'à présent deux fois plus d'aide militaire à l'Ukraine que l'Union européenne. Et puis surtout, notre appareil industriel en Europe ne peut pas suivre les consommations énormes nécessaires à l'Ukraine. Contrairement à ce que les dirigeants européens déclarent, il est totalement faux de dire qu'on est passé en économie de guerre en Europe. En plus, nos stocks ont atteint un niveau extrêmement bas. Et puis enfin, en termes qualitatifs, nous voyons bien qu'il y a des réticences de plus en plus fortes à livrer les armements les plus sophistiqués. La Belgique assure la présidence de l'Union européenne du 1er janvier au 30 juin 2024. Et l'une des premières déclarations du Premier ministre belge, ça a été de dire qu'il était peut-être temps de penser à un impôt européen pour payer la guerre. Pour le moment, pour les Européens, c'est quelque chose d'abstrait. Quand ils vont recevoir le début de la note, vous verrez que leur attitude changera, parce que pour le moment, on est un peu dans le lyrisme où certains font beaucoup de cadeaux sur de l'argent qu'ils n'ont pas à M. Zelensky. Et ensuite, n'oublions pas que au deuxième semestre de 2024, donc de cette année, non seulement il y aura les élections américaines, mais vous aurez aussi des élections européennes avec une majorité qui, je pense, sera beaucoup moins favorable à la continuation de la guerre en Ukraine. Et puis aussi une présidence européenne qui, après la présidence belge, ne sera plus la même, puisque la présidence européenne pour les six derniers mois de l'année 2024, ce sera une présidence hongroise. C'est un tour qui est arrêté très longtemps à l'avance. Donc c'est un pur hasard. Ce qui veut dire en tout cas que ceux qui souhaitent une guerre à tout prix auront peut-être moins d'accueil favorable auprès de la nouvelle présidence européenne qui sera assurée par la Hongrie.
Monsieur Philippot, jusqu'à où cette escalade dans la confrontation avec une puissance nucléaire comme la Russie peut-elle mener la France ?
Oh, moi je pense que tout ça s'arrêtera plus vite qu'on ne le croit. Je pense qu'il y aura là quelques rodomontades, qu'on va essayer de montrer les muscles pendant quelques semaines, mais je pense que sous pression des peuples et sous pression du réel, on va arrêter comme ça d'envoyer des armes et de l'argent progressivement, ou alors on va faire des annonces, mais ça ne sera pas suivi d'effets. Il faut aussi se méfier des annonces, vous savez. Il y a des annonces, et puis ensuite, on regarde, il n'y a pas beaucoup d'armes. Je crois que l'Union européenne promettait 1 million d'obus. Il n'y en a eu que 300 000 livrés, même pas un tiers. Vous voyez, donc, en réalité, nous allons tout faire pour la paix, pour appeler à la raison. Je crois que les Français vont faire pression. Il y a quelques semaines difficiles à passer, mais je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin. Et si ça allait plus loin, ce serait une folie, ce serait extrêmement dangereux et ce serait une catastrophe pour notre pays.
C'était Christelle Néant, journaliste française fondatrice du site Donbass Insider, Laurent Braillard, journaliste français, ainsi que les hommes politiques français Florian Philippot, président du parti Les Patriotes, Nicolas Dupont-Aignan, chef du parti Debout la France, et Thierry Mariani, eurodéputé français pour Spoutnik Afrique. Ils ont commenté l'élimination de soldats français par l'armée russe en Ukraine. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 99.5 FM. Les représentants de 120 pays sont réunis jusqu'au 20 janvier en Ouganda pour le 19e sommet du mouvement des pays non alignés. Des chefs de gouvernement ainsi que des chefs d'État sont sur place. Les discussions porteront sur l'insécurité alimentaire, le changement climatique, ainsi que du financement et du développement de la question de la dette. Pour rappel, le mouvement a été créé en 1961 lors de la conférence de Belgrade, 6 ans après la conférence de Bandung qui en avait jeté les bases. Il regroupait à l'époque les pays qui ne désiraient pas prendre position pour un camp ou pour un autre durant la guerre froide. Au micro du correspondant de Spoutnik Afrique, Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine, a fait le point sur les enjeux qui font face aujourd'hui à l'organisation.
Le 19e sommet du mouvement des non-alignés se tient actuellement à Ouganda. Et ce pays africain a pris la présidence cette année. Le mouvement lui-même a été officiellement créé en 1961 et reposait sur le principe de la non-participation à des blocs militaires de l'époque. Mais comment voyez-vous les enjeux qui se posent devant ce mouvement aujourd'hui dans le contexte géopolitique actuel?
Quand on a créé le mouvement des non-alignés, la désignation même signifiait quelque chose. Il y avait effectivement deux blocs très. C'était pas seulement des blocs militaires, c'était à la fois des blocs économiques, idéologiques, politiques, tout ce qu'on veut, et militaires. Donc les États qui venaient, eux, d'accéder à l'indépendance, notamment la majorité de ces pays africains, ou qui n'y avaient même pas accédé, ne pouvaient pas, eux, accepter que ceux qui les avaient colonisés ou qui n'avaient rien fait peut-être pour qu'ils sortent de cette colonisation rapidement. En tout cas, ces pays-là ne pouvaient pas accepter comme ça de s'aligner derrière l'un ou l'autre des camps parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes intérêts. Donc, à partir de là, c'était normal qu'eux, ils disent non, nous ne sommes pas alignés. Nous ne pouvons pas être alignés. Aujourd'hui, il n'y a pas de bloc. C'est comme des plaques tectoniques qui bougent dans un sens, dans un autre. Des fois, ça crée des étincelles, des tremblements. Bon, des fois, ça se recompose et ça crée de vastes étendues de régions qui se regroupent économiquement, politiquement. C'est ce qui est en train de se passer. Le non-alignement au départ, c'était pour ne pas s'aligner derrière la Russie ou la Chine. Or, ces pays sont aujourd'hui dans le même mouvement. Sur cette base, à quoi correspond, je pense que c'est le fond de votre question, à quoi correspond une telle rencontre? Je pense qu'effectivement, ça peut permettre aux États qui se retrouvent là-bas au 10e ou 19e sommet de discuter entre eux, de voir comment consolider cette nouvelle configuration internationale dans le cadre de l'ordre mondial établi. Donc, que cette nouvelle configuration internationale marquée par, effectivement, l'arrivée des BRICS. Bon, donc, c'est de telles rencontres de soi-disant non alignées peuvent permettre d'échanger, peuvent permettre d'animer la scène diplomatique internationale.
À votre avis, aujourd'hui, est-ce que les pays africains, et notamment votre pays, le Sénégal, est-ce que ces pays ont besoin de ce mouvement? Est-ce que ce mouvement peut être intéressant et dans quelque sens utile à l'Afrique?
Dans les relations internationales, tout ce qui permet aux États de se regrouper, aux dirigeants de ce monde, de se voir, d'échanger pour contribuer à la stabilité internationale dont nous avons besoin. Bon, tout ce qui permet ces regroupements est utile, honnêtement. Et les États africains, tout ce qui leur permet aussi d'échanger avec le reste du monde, c'est utile. Bon, donc, qu'ils l'appellent maintenant non-aligné ou tout ce qu'on veut, bon, ce ne sont que des dénominations. Le non-alignement n'est plus une orientation définitive par rapport à un groupe d'États donné. Les pays, leur alignement va varier en fonction de leurs intérêts. Parce que le monde aujourd'hui, le monde globalisé n'est plus mu par l'idéologie. Ce monde globalisé est mu par la rentabilité économique, surtout par la rentabilité économique et par le renforcement de tout ce qui peut permettre des échanges économiques plus ou moins égalitaires et tout ce qui peut permettre politiquement, diplomatiquement, de vivre en paix. C'est ce que les différents États recherchent et c'est ça qui a été aussi la contribution des organisations internationales comme les Nations Unies et autres. Donc moi je pense que le mouvement des non-alignés, pour revenir à vous, est un mouvement utile en tant qu'il permet aux États de contribuer au renforcement des relations fraternelles et amicales entre les peuples, en tant qu'il permet aussi de susciter des débats, de se faire écho des préoccupations des pays qui appartiennent d'ailleurs à des régions différentes. et que ces pays-là, qui sont soumis à un ordre international souvent qu'ils n'avaient pas créé, mais qui est là, qui s'impose jusqu'à présent. Parce que cet ordre international et s'appuie sur quoi? Sur une certaine gouvernance internationale que sont les Nations Unies, sur le plan politique que sont maintenant la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, de l'autre part sur une certaine forme aussi de contrainte plus ou moins politique à travers le Conseil de sécurité. Mais le fait que les États puissent discuter souvent, échanger dans des cadres qui se sont fixés, dans les cadres peut-être où ils se sentent le plus à l'aise, c'est ça. Le Sénégal a déjà défini. Vous voyez, par exemple, le Sénégal est un pays très francophone, très francophile. Mais aux Nations Unies, je me souviens, quand le président français avait voulu que les États africains prennent des orientations qu'il arrangeait lui par rapport à la guerre en Ukraine et autres, non, le président du Sénégal a dit que non, on ne peut pas, et suivi par d'autres, que la question n'était plus de s'aligner automatiquement derrière tel ou tel pays. Les gens, le problème de la Russie, de l'Ukraine, c'est pas les États africains doivent l'apprécier en fonction de leurs intérêts, comme les États de l'Union européenne l'apprécient en fonction de leurs intérêts, même les États-Unis. Pourquoi que selon que c'est Biden, c'est telle orientation, et selon que l'ancien président Trump, c'est une autre orientation, et tout le monde le sait. Donc les États africains aussi avoir des orientations qui varient. Et un peu, c'est ça le non-alignement, d'une façon générale. C'est maintenant un non-alignement à géométrie variable en fonction de la réalité. Ce n'est plus un non-alignement automatique. Parce qu'à l'époque aussi, le monde, les relations internationales étaient figées. Donc, le non-alignement ne pouvait pas ne pas être figé et automatique. Ça veut dire que l'Union soviétique et ses partenaires n'écoutaient pas ce que disait l'autre camp. L'autre camp aussi, comme posé de l'OTAN, les États-Unis ne les écoutaient pas. Voilà. Donc, s'aligner derrière un de ces groupes-là, ça veut dire que c'était un peu complètement, non seulement s'aligner totalement à l'autre partie. Et ça aurait coûté cher à beaucoup de pays africains. C'est comme ça qu'ils ont évolué. Aujourd'hui, je crois que vraiment le mouvement des BRICS, c'est un mouvement concret. Voilà, c'est un mouvement concret. S'il n'y a pas besoin d'être ni à l'Est ni à l'Ouest, et c'est composé de gens qui pensent qu'il y a des valeurs culturelles, sociales, qu'on peut universaliser, qu'on peut partager, qui peuvent avoir des incidences économiques ou des incidences culturelles. Et c'est ce qui peut expliquer que la Russie et la Chine et l'Inde soient dans un même groupe. Alors que quand on réfléchit profondément, des fois, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes préoccupations, les mêmes intérêts. Mais sur certains grands principes, ils se retrouvent.
Maintenant, est-ce que le non-alignement, c'est en quelque sens synonymique à la multipolarité ou ce sont deux concepts, deux notions différentes? Comment voyez-vous le mouvement des non-alignés et les BRICS qui aussi émergent comme un groupement des pays très différents?
Moi, à mon avis, le mouvement des non-alignés, je vais dire une nouvelle formule, hein. Elle ne peut que s'aligner sur la réalité internationale. Cette réalité internationale qui est dominée absolument par l'émergence de ce mouvement qu'on appelle, ou ce mouvement, ou en tout cas cette réalité, cette entité qu'on appelle les BRICS. Le mouvement des non-alignés, c'est presque l'Assemblée générale, quoi. Une sorte de grande Assemblée générale où les grands discours politiques seront menés, les grandes réflexions, et qui pourront être continuées mais d'une façon plus pragmatique, plus technique par les BRICS. Parce que les BRICS, c'est pas simplement de la théorie. C'est quand même les BRICS, c'est pour vraiment jouer à reconfigurer les relations internationales. C'est pas, à mon avis, les BRICS, c'est pas pour se battre contre l'Occident ou contre qui que ce soit. Il y a un ordre international. Mais ce qu'ils apportent de nouveau, c'est que cet ordre international doit être configuré. Oui, doit-elle configurer multipolaire? Si demain il y a une institution qui est aussi puissante que la Banque mondiale ou plus ou moins, bon, que ça ne gêne personne, que des gens puissent aller vers cette institution-là, comme ils peuvent aller vers la Banque mondiale ou le Fonds monétaire. Mais dès que les deux premières institutions, Banque mondiale, Fonds monétaire international, ne doivent plus avoir pour seul objectif d'assujettir des groupes de population, de peuples, selon la volonté plus ou moins clairement exprimée de certains groupes. C'est ça la nouveauté.
C'était Benoît Ngom, président de l'Académie diplomatique africaine pour Spoutnik Afrique. Il a fait le point sur les enjeux actuels du mouvement des non-alignés qui se réunit actuellement en Ouganda. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de notre émission. Je vous invite à consulter notre site internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et internationale en direct. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.